J'ai une lecture qui était beaucoup trop longue. C'est deux chapitres, puis je ne vais pas lire 53 versets avec vous ce matin, mais je vous encourage à lire 2 Rois, chapitre 6 et le chapitre 7. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre quelques versets et je vais commenter dessus. Donc, pour commencer ce matin, on va juste lire à partir du verset 8 et on va faire une application avec la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Alléluia. Donc, on peut lire ensemble 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Ça nous dit, « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu. » Donc, je vais juste vous mettre dans le contexte. Vous savez, la tribu d'Israël s'est séparée en deux. On avait la tribu d'Israël, Juda qui était la capitale, qui était Jérusalem. Puis on a aussi Israël, les 10 tribus qui étaient au nord. Et on avait comme capitale la Samarie. Et là, le roi des Syriens, qui était l'opposé, il va venir faire la guerre à Israël. Et j'aimerais faire une application directe avec ça. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce passage? C'est que si vous êtes chrétien de plus de 5 minutes, vous allez voir que quand on devient chrétien, on entre dans un combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, l'ennemi n'est pas content. Même la Bible dit qu'il rôde comme un lion qui cherche qui ce qu'il va dévorer. Donc, on voit que dans cette image, qu'on peut facilement voir qu'on est entouré d'ennemis. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de combats, c'est le contraire. C'est parce qu'on est chrétien, il va y avoir des combats. Et je crois qu'il y a des combats à l'extérieur. Je ne sais pas, je ne veux pas nommer de nom parce que je ne veux pas que ces vidéos soient obstruction sans nommer de nom, mais on a, exemple, des mondialistes, des gens riches, qui veulent, ils ont des plans pour le monde. Ils se croient un peu comme Dieu. Ils veulent, ils ont leurs plans et ils veulent aussi la réduction de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ressemble à des lions, n'est-ce pas? Donc, on voit que les ennemis de l'extérieur, ils veulent attaquer, ils viennent. Il faut voir ça. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on est chrétien à l'intérieur d'une église qu'il n'y a pas de combat. Donc, vous savez, on le voit dans la Bible, Paul en a parlé, dans Jude 3, on ne va pas lire, mais ça dit que c'est glissé parmi vous des gens qui veulent diviser. On le voit aussi dans les Actes des apôtres, au chapitre 20, on peut voir que ça dit même qu'il peut s'élever parmi vous. Donc, le combat est de l'extérieur, mais il est aussi de l'intérieur. Donc, l'Église même est menacée de l'intérieur. Et on peut voir à travers ce que Paul va dire, il dit même qu'il va s'élever des loups. Puis là, je vise personne là, quand je dis ça, là. Puis, on voit aussi dans 2 Corinthiens 11, il parle des faux apôtres. Wow! Tu sais, on peut voir que quand Paul va se réunir, les Éphésiens, ils avaient beaucoup à cœur, puis il va se réunir avec les anciens, puis il va dire, prenez garde d'être séduits. Et ça nous amène à voir ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit « dans les derniers temps ». Est-ce que vous croyez qu'on est dans les derniers temps? Donc, il dit « dans les derniers temps, il va y avoir, tête de liste, la séduction ». Donc, la séduction. Donc, faut pas penser que ça ne nous atteint pas, puis on est... il faut d'être sur nos gardes, plus que jamais. Il faut se préparer pour ce qui s'en vient. On peut voir aussi que Paul, dans 2 Timothée 3:1, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura de l'égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, on va adorer la créature au lieu du Créateur. C'est ce que Romains va nous dire, Paul aux Romains, au chapitre 1. On va adorer la créature au lieu du Créateur. Donc, on voit l'égoïsme aujourd'hui qui est un piège, qui est un ennemi du chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de troubles. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de combats. Donc, on peut voir ici qu'Israël, il est entouré d'ennemis. Puis Israël a beaucoup de choses à nous enseigner. On sait qu'Israël, il a été infidèle, il a eu 3 déportations, Dieu a tout bougé de les ramener, puis il va les appeler l'homme au courel, il va donner toutes sortes de noms parce qu'il y a de l'influence. Plus que jamais, on a besoin de se rapprocher de Dieu avec tout ce qu'on vit. Donc, on n'est pas mieux qu'Israël. Okay? Et là, il va se passer de quoi ici au verset 9? Donc, au verset 9, « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Donc, qu'est-ce qui arrive? Les prophètes vont avertir le roi d'Israël, le prophète Élisée, va avertir, « Va pas là. » Et là, il ne va pas. Il déjoue le roi de Syrie. Et ça arrive pas juste une fois, pas juste 2 fois, ça est arrivé plusieurs fois. Et là, le roi de Syrie, qui est l'ennemi d'Israël, lui dit, « Y a-t-il quelqu'un dans mon camp qui est contre moi? Y a-t-il quelqu'un qui s'est infiltré dans ma gang qui déjoue toujours mes plans? » Et il y a un de ses serviteurs qui va lui dire, c'est le prophète Élisée. Il sait même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Ben là, le roi, il dit, OK, si c'est ça, où est-ce qu'il est, ce gars-là? Et là, il va prendre son armée, puis là, il s'en vient pour éliminer Élisée, pour plus qu'il brouille ses plans. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ici, on est dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans Hébreux chapitre 1? Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 1 ensemble? Hébreux chapitre 1. Donc, Dieu, dans les temps passés, a parlé par les prophètes. Mais à nous, aujourd'hui, qui vit dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. N'est-ce pas? Donc, on aime, je ne sais pas si que vous êtes comme moi, mais on aime le surnaturel. N'est-ce pas? Moi, j'aime quand que je vais prier pour quelqu'un qui est guéri. Je vais prier pour quelqu'un, puis Dieu vient. On aime le surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le surnaturel de Dieu? Amen. Il y a même une émission qui va dire le naturel, le surnaturel est naturel. Vous connaissez l'émission de Sid Rod? Lui, le surnaturel, il en mange, tu sais, puis il veut vivre là-dedans. Donc, ici, on peut voir que dans 1 Jean 4:1, il dit une chose. Le spirituel, il y a quand même de quoi à prendre garde. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, on voit même la séduction dans le surnaturel. C'est pourquoi qu'on voit dans le surnaturel l'occulte. C'est pourquoi qu'on va voir même dans le surnaturel, on va voir le spirituel, le surnaturel qui s'élève. On le voit dans le Nouvel Âge, n'est-ce pas? Pense que tu l'as et tout est centré sur toi. Donc, il y a un danger pour nous là-dedans, de ne pas donner foi à tout ce qui bouge de spirituel ou du surnaturel. Donc, il y a une garde à prendre. C'est comme ça qu'Israël a tombé avec les faux dieux. Donc, si on lit le verset, là, je vais sauter, OK? Là, c'est ça. Là, le roi a fait son armée. Là, il s'en vient pour éliminer Élisée. Allons voir ce qui se passe quand l'armée vient pour attaquer Élisée, pour aller prendre Élisée. On lit à partir du verset 16. Donc, je suis toujours dans 2 rois 6. Il répondit, « Ne crains pas. » Donc, je vais vous mettre dans le contexte. Okay? C'est que là, Élisée a son serviteur. Probablement, vous connaissez ce passage. Élisée a son serviteur. Puis là, il voit l'armée qui est contre lui. Et c'est là que Élisée va dire à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Donc là, Élisée, il va essayer d'y montrer quelque chose à son serviteur. Il va y montrer qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique qu'on voit, mais il y a aussi un monde spirituel, n'est-ce pas? Et c'est là que le serviteur, il va voir l'armée céleste, des chars de feu. Donc, il voit quelque chose ici. Donc, 2 mondes, 2 pouvoirs. On voit qu'il ne faut pas accepter tout ce qui nous est proposé. Pourquoi que parfois on doit dire non? Dieu a déjà une direction. Et là, j'aimerais qu'on puisse aller, et c'est là que quand le prophète Élisée va lui dire, « Ouvre-lui les yeux. » Je vais m'arrêter, je fais une petite parenthèse là-dessus. « Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. » C'est pas parce qu'il est aveugle. Vous me comprenez? Donc, j'aimerais revenir avec vous ce matin dans la Genèse. La Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Mais Satan va venir par après, puis il va dire, vous ne mourrez pas, mais vos yeux vont s'ouvrir. Donc, voyez-vous la séduction que Adam vous prendrez. Genèse, je ne te l'ai pas donné, je pense. Oui, je te l'ai donné. Genèse 3, verset 4. Regardez bien comment est-ce que Satan il va se surprendre. Et alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu avait dit l'inverse, n'est-ce pas? Mais regardez bien ce qu'il va dire. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et si on lit le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et elle en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai que ses yeux se sont ouverts? Donc, on voit ici que ses yeux se sont ouverts, comme que Satan lui avait dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux et vous allez connaître le bien et le mal. La sournoiserie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont même se dire, on est Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Il y a un petit danger, mais c'est sournois. Donc, on sait que le voile a été jeté sur eux, et c'est là qu'ils ont vu le manque. Ils ont vu qu'ils sont nus, et là, c'est là que le voile a été jeté sur eux. C'est là qu'il y a eu une séparation entre la création que Dieu avait faite, et vous connaissez l'histoire. Mais la Bible nous dit que lorsque le cœur se convertit à Dieu, le voile est enlevé, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais voir avec vous ce matin, juste pour les yeux qui s'ouvrent, on voit que, on l'a dit, Dieu nous a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il nous a parlé par le Fils. Et allons un peu avec la vie de Jésus. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous dit que du ciel est venu sous une forme de colombe, donc une voix s'est fait entendre du ciel. Et j'aimerais qu'on puisse lire juste après, on est toujours dans Jean chapitre 1, on va aller au verset 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, que je t'ai vu sous le figuier, ici il parle de Nathanaël, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, quand est-ce que Jésus dit ça, en vérité, ça veut dire, porte attention à ce qui s'en vient. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, il dit, vous allez voir le ciel ouvert. Le ciel a été formé à cause d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Mais lui, il vient, puis il nous ouvre le ciel. C'est ce qu'il fait. Il dit, vous allez le voir. Mais avec nos yeux humains, on ne voit pas ça. Et on peut voir aussi un autre passage de la vie de Jésus. Lorsque Jésus va arriver à la croix, qu'ils vont le crucifier et qu'il va ressusciter d'entre les morts, il va dire à ses disciples, « Quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu. » N'est-ce pas? Mais il y a deux disciples qui ont décidé de ne pas écouter ça. Ils sont partis vers Emmaüs. Et Jésus va aller les rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. Donc, on peut voir que ses serviteurs, ses disciples, étaient quand même dans la désobéissance parce qu'il avait dit de ne pas quitter Jérusalem. Et là, ils s'en allent. Mais Jésus va aller les rencontrer. Est-ce que vous voyez déjà l'application? Jésus va aller les rencontrer et là, il va faire chemin avec eux. Mais pourquoi que Jésus n'a pas arrivé et dire, « Hey, c'était moi le Messie? » Non. La Bible nous dit, je pense qu'on va aller le lire, c'est dans Luc 24, à partir du verset 25. On va lire jusqu'au verset 31. Regardons bien la scène. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc, il va commencer par les prophètes, qu'est-ce que Dieu a dit aux prophètes. Jésus va lui expliquer en détail. Okay? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui. Okay? Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Leurs yeux se sont ouverts. Donc, cela, ils ont vu par la Sainte Cène qu'ils ont pris que Jésus est vraiment ressuscité, que Jésus, c'est vraiment le Messie qui devait venir, que les prophètes avaient annoncé. Donc, Jésus, c'est vraiment lui. Donc, c'est pourquoi que là, tout d'un coup, ça s'allume pour eux autres. La mission que Jésus a venu faire est accomplie. Il l'avait dit, mais là, il prouve en étant ressuscité. Et je sais qu'on s'en va vers la Pâque. Ma prière pour vous ce matin qui écoutez, c'est que cette nouvelle Pâque qui s'en vient pour nous, ma prière, c'est que nos yeux s'ouvrent réellement pour savoir quelle heure qu'il est présentement. Le Messie, le Sauveur qui est venu, la Bible nous dit qu'il revient. Donc, il dit qu'il y a une épouse qui est là, qui s'est préparée pour ce qui s'en vient. J'espère qu'on n'est pas en retard dans ce qui se passe autour de nous. Donc, Jésus, on le voit, il va guérir un aveugle né, n'est-ce pas? Quelle leçon qu'on peut retirer de toutes les leçons que Jésus a venu nous enseigner? Aujourd'hui, il ne faut pas courir après n'importe quoi, la nouvelle prophétie, le nouveau prophète qui est arrivé en ville, on veut de l'émotion, on veut de la révélation. La Bible nous dit que Dieu nous parle par le Fils. Le tout accompli de Jésus est là. Il nous parle par son esprit. Amen. Donc, il dit à l'église de Laodicée. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or. » Et lorsque Dieu conseille, est-ce que vous pensez que les conseils de Dieu sont bons? Les conseils de Dieu sont à recevoir. Il dit à l'église de Laodicée, il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et un vêtement blanc, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois quelle heure qu'il est, que tu vois qu'est-ce qui s'en vient. » Alléluia! Et si vous prenez l'église de Laodicée, c'était une église qui était prospère. Les ports étaient là, et sont connus pour la textile, sont connus pour la médecine des yeux, et c'était une église prospère. Mais Dieu va conseiller, il va prendre ce que les autres pensaient que c'était bon, mais Dieu va le spiritualiser. Est-ce que vous voyez les deux mondes? Est-ce que je peux continuer? Ésaïe va nous dire, Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Alléluia! Il va y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il va y avoir une différence entre celui qui est attaché au bien de la terre et celui qui a les yeux ouverts pour le ciel. Alléluia! Donc, on peut voir ici que le voile est déchiré lorsque Jésus a entré dans le sanctuaire. La Bible nous dit, j'ai aimé les chants ce matin, c'est parce que je voyais les parties du message, que comment est-ce que Dieu confirme. Dieu veut dire une parole. J'espère que, Seigneur, aide-moi à livrer le message que tu veux que ton peuple entende. Dieu veut qu'on soit alerté. Dieu veut qu'on voit ce qui se passe dans le spirituel. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Oui, on vit sur la terre, mais il faut que notre tête soit au ciel, de savoir qu'on ne soit, on soit pas comme des ignorants, que nos yeux s'ouvrent. Amen. Et pour ça, il y a eu un chemin qui a été frayé. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ qui l'a frayé pour nous. C'est lui qui a ouvert le ciel et on a accès à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré avec son sang, on peut voir dans Hébreu, Hébreu 9, 24, ça, est-ce qu'on peut l'avoir? Il est là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Une imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Et c'est pourquoi il va dire, « Nul ne vient au Père que par moi. » Mais le chemin, il l'a fait. C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, que la Bible dit qu'il a entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait par des mains d'hommes, c'est-à-dire le céleste, parce que là, Moïse, qui avait fait le tabernacle terrestre, il l'avait fait d'après le modèle qu'il avait vu dans le ciel. N'est-ce pas? Il avait fait le modèle. Mais Jésus, lui, il n'a pas rentré dans celui-là. Il est rentré dans le céleste, afin que, quand ce qui est arrivé devant le Père, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, c'est pourquoi il va présenter à son Père, et son Père va dire, « Justice, c'est suffisant. » C'est pourquoi qu'on a un libre accès à avoir les yeux ouverts. C'est lui qui a fait le chemin, n'est-ce pas? On revient à notre texte. Un autre passage que j'aimerais voir avec vous, c'est versets 18 à 23. Et là, regardez bien qu'est-ce que Élisée va faire. Élisée, l'armée est là pour lui. Et Élisée, qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander à Dieu, rends ce peuple aveugle, l'armée aveugle. Et là, Dieu va l'exaucer. L'armée qui voulait le détruire, Dieu va les rendre aveugles. Et là, quand tu es aveugle, tu ne sais pas ce que tu vois, n'est-ce pas? Et Élisée va aller les conduire au roi d'Israël. Pour l'ennemi qui rentre en Israël, il avait venu pour les tuer, il avait venu pour les détruire, mais là, il rentre aveugle. Il se passe de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Élisée va dire, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et ils le conduisirent à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père? » Le roi, ici, il voit Élisée, il a la crainte de Dieu, il sait que Dieu parle par le prophète, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait parlé, « va pas là, touche pas là. » Puis le roi, il a écouté Élisée comme Dieu. Et là, il va demander conseil à Élisée. Et là, lui, probablement, si ça serait de lui, imaginez-vous qu'il y a un ennemi qui veut ta vie, puis qu'il vient à toi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans la tête du roi d'Israël? De le tuer, n'est-ce pas? Mais il va demander quand même conseil à Élisée. Et regardez bien ce que Élisée va dire. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Aïe, aïe. Pensez-vous qu'il a envie de faire ça? Pas du tout. Pas du tout. Donne-leur du pain. Et je vois la Sainte-Seine. Je vois la Sainte-Seine. On se dit chrétien. On est chrétien. Et je vois la Sainte-Seine lorsque Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas? Et la Sainte-Seine, ça nous ramène en arrière. Ça nous ramène à la croix. Ça nous emmène au pardon. N'est-ce pas? Et là, ici, donne du pain. Allons voir ce que le Nouveau Testament nous dit dans Romains 12, 17. Le Nouveau Testament, dites avec moi le Nouveau Testament, il nous parle, le Fils nous parle. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant presque tous les hommes. Tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Paul disait, je suis irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Wow! Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ding, ding, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est toute une transformation, n'est-ce pas, hein, qu'il faut qu'il opère en nous. Hein? Tu sais, la chair est encore là, nos désirs sont contraires à celle de l'esprit. Mais est-ce qu'on veut entendre ce matin la parole de Dieu, le Fils de Dieu nous dire, donne à manger à ton ennemi. Donc, il va le faire. Il va le faire. Il va même faire, la Bible dit au verset 23, le roi d'Israël leur fit un grand repas et ils mangèrent, ils burent. Puis, ils se sont entêtés. Bon, mais il ne comprend pas le prophète, le roi. Il ne comprend pas, mais ils sont partis. Mais il va passer une situation différente. Pour lui, dans sa tête, c'est fini avec les Syriens, n'est-ce pas? Ils ont donné à manger, ils sont partis. Puis c'est le prophète Élisée qui lui a dit, tiens, tu fais ça? Il a fait ça. Mais là, il se passe une autre situation. Une situation nouvelle ici qui se passe, qui est au verset 24. C'est que là, l'ennemi, il revient. Là, il revient. Il assiège Samarie. Samarie, c'est ça. Il assiège Samarie. Donc, c'est comme un embargo. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui rentre à Samarie parce qu'ils sont assiégés tout le tour. L'ennemi vient puis se campe autour. Et là, qu'il se passe de quoi en Samarie, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de vivres. Et la situation devient vraiment grave, vraiment grave. C'est qu'on peut lire, et j'espère que vous allez le lire à la maison, c'est pas de quoi j'invente. Les femmes mangent leurs enfants. C'est rendu là, la famine. Puis la Bible nous dit ici dans le texte qu'une tête d'âne, ça vaut une fortune. Donc, c'est vraiment grave la situation, n'est-ce pas? Mais là, le roi d'Israël, lui, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il cherche un coupable. C'est de la faute d'Élisée parce que on les avait. On aurait pu les décapiter, puis on aurait eu fini avec. Mais regarde ce qu'ils nous font vivre. Et la Bible nous dit dans le texte que le roi est sur la muraille. Puis là, il voit, il a les yeux sur la situation. Il a les yeux sur les problèmes. Mais Élisée, les anciens sont dans la maison. J'imagine que les anciens qui étaient avec Élisée sont dans la maison. La Bible ne dit pas c'est quoi qu'ils faisaient dans la maison, mais j'imagine qu'ils ne parlent pas juste de la pluie puis du beau temps. Bref, le roi, il voit cette situation-là, puis il dit « Non, je ne peux plus le tolérer. » Pourtant, Dieu y avait parlé par le prophète. Mais là, il n'écoute plus Élisée, c'est-à-dire qu'il n'écoute plus Dieu. Il n'écoute plus que ce que Dieu dit. Là, c'est ses sentiments, c'est ses émotions qui rentrent. Ça rentre-tu? Donc, ici, on peut voir que là, il va dire de quoi? Il va dire, Élisée, asseoir. Parce que là, il avait entendu des troubles, il avait entendu les femmes se lamenter, il avait vu les problèmes. Puis il a dit, asseoir, ta tête, mon Élisée, est coupée. Mais Dieu parle par les prophètes, n'est-ce pas? Dieu, aujourd'hui, on veut couper la tête à Dieu. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On n'en veut plus de Dieu. Quelle image avec notre monde actuel, n'est-ce pas? Dieu, on n'en veut plus parce qu'on veut se livrer à tout ce qu'on veut. Je voyais la semaine passée, même aujourd'hui, quand tu as une formule à remplir, qu'on demande est-ce que tu es un homme ou une femme, tu coches. Mais là, on va rajouter une autre coche. Puis là, tu vas pouvoir faire un X là-dessus. Bien, moi, je ne sais pas, mais quand j'allais à l'école, puis que j'avais un X, ça veut dire que c'était pas bon. Ça m'enseignait que c'était pas bon, puis j'en voulais pas de X, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est là qu'on est rendu. Aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. C'est là-dedans qu'on vit, là. Est-ce qu'on a les yeux ouverts? Oui, on voit ce qui se passe, mais il faut avoir aussi les yeux spirituels de savoir c'est quoi qui nous attend. C'est que le Seigneur est à la porte. C'est là qu'il est. Alléluia. L'ennemi, il va diviser les amis. On le voit ici. Il va blâmer les ennemis. Il va blâmer... là, ils sont devenus ennemis. Okay? Là, je vais avancer un peu. Il dit dans 2 Rois... chapitre 6. Allons voir le mandat que... On va aller au verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter de la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait pas entendre derrière lui. » Donc, 2024, Israël, leur année, c'est 5784. Si vous êtes là, le dernier message que j'ai apporté, c'est l'année des portes. N'est-ce pas? Et là, il va dire, l'ennemi, il est à la porte. Et je vais parler de Caïn, quand ce que Dieu a dit, le péché se couche à la porte. Les tentations sont là à la porte. Il dit, domine sur lui. Donc, on peut voir ici qu'il disait, c'est qu'il va dire, ça ne rentre pas ici. Quelle application qu'on a pour nos vies? la porte. Il dit, repousse-les avec la porte. On ne peut pas arrêter l'ennemi de frapper à notre porte, mais on a l'autorité de ne pas lui ouvrir. Dieu dit, possède les portes de tes ennemis. Parce qu'on est plus que victorieux en celui qui nous a aimés. Donc, avec un appétit mal placé, on peut perdre des victoires. On a l'exemple de Samson, n'est-ce pas? Un appétit mal placé peut te faire perdre des victoires. C'est le temps ou jamais qu'on a à marcher dans la sanctification, à chercher la face de Dieu, que nos yeux spirituels soient ouverts et nos yeux charnels soient fermés. N'est-ce pas? Le prophète Osée va dire, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et là, il va se passer une autre scène. Je vous dis, il y a beaucoup de stock dans ces deux chapitres-là. C'est que là, Élisée va dire quelque chose dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 et 2. On lit, regardez la nouvelle scène. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. » Aujourd'hui, vous entendez, on entend ça souvent, hein? « Ainsi parle l'Éternel. » N'oubliez jamais que Dieu nous parle par son Fils. C'est son Fils qui nous parle. Il ne faut pas non plus tomber, il faut être vigilant plus que jamais aujourd'hui. Mais on sait que Dieu parle par les prophètes, et là, il va dire à Élisée, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. C'est le contraste de la famine. C'est l'abondance de Dieu. C'est ça que tu vas voir dans 24 heures. Tu vas voir la main de Dieu. Dans 24 heures, la situation est transformée. Dans 24 heures, tout est changé. J'espère qu'il y a une parole qui s'échappe ce matin, qui va nourrir chacun de nous. Quand ce que Dieu parle, ça vient toujours d'en haut. Dieu était en haut, il a dit que la lumière soit, la lumière se fut. C'est toujours d'en haut vers le bas. C'est jamais le contraire. Trop souvent, c'est qu'on veut que... Oui, c'est bon, je ne dis pas de ne pas prier, on a prié, on va prier, mais ça vient toujours d'en haut. Le tout accompli est déjà là, n'est-ce pas? Donc, certains ne vont pas y croire. À le serviteur du roi, il ne va pas croire ça. Il va dire au verset 2 ou 3, ben je vous le dis, et là, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voyez-vous, l'incrédulité de ne pas croire. Il dit, parce que lui, il ne crée pas ça, là, tu sais, là. Le surnaturel, il ne faut pas non plus le raisonner. Dire, c'est impossible. La Bible nous dit-elle pas qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? N'est-ce pas? Que Dieu peut tout... Même dans les temps d'adversité, quand ce qui est dit que 1000 va tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. N'est-ce pas les promesses de sa parole? Lorsqu'il dit le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, n'est-ce pas lui qui dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je te tiens dans ma main? Donc la sécurité est dans la main de Dieu. La sécurité, c'est Dieu qui nous la donne. N'est-ce pas? Mais il y en a qui ne vont pas croire ça. Ils ne vont pas croire que la seule solution, c'est Dieu qui l'a. L'homme n'a pas la solution. Mais Dieu a la solution. il nous le révèle aussi. Et là, j'aimerais aller c'est que là, il y a de quoi aux portes. Il y a 4 lépreux. Encore 4. Aux portes. 4 lépreux aux portes. Et pourquoi ils sont aux portes? C'est parce qu'ils ne sont pas acceptés. Les lépreux, ils ne peuvent pas rentrer là parce que c'est contagieux, leur maladie. Okay? Et les 4 lépreux aux portes, eux aussi sont dans la famine. Eux aussi, ils sont dans l'épreuve. Et même plus, parce que la maladie qu'ils ont, et là, ils ont 3 choix. Ils vont faire 3 choix. Ils ont dit, premier choix, si on reste ici, on crève. Si on rentre dans la ville, il y a une famine, on crève. Allons dans le camp de l'ennemi. S'ils nous tuent, on va mourir pareil. Donc, les 4 unis vont aller dans le camp de l'ennemi. Et lorsqu'ils ont entré dans le camp de l'ennemi, les Syriens, ils ont vu ça comme un bruit de char de guerre. Mais c'était 4 hommes. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais il les a fait entendre, c'était comme des chars de guerre qui venaient les attaquer. Ils ont tout laissé là, puis ils sont partis. Là, les lépreux ils arrivent là, puis là, ils voient qu'il n'y a pas personne. Mais tout le butin il est là. Là, ils rentrent dans une tente, là, ils voient le manger, ils voient tout. Donc, ils vont manger, et là, même, ils vont prendre des réserves parce qu'ils ont eu faim. Donc, ils vont mettre des réserves, ils vont se garder des réserves. Et là, ils allent dans une autre tente. Là, ils voient de l'or, là, ils voient d'autres choses, des vêtements. Ils ramassent tout. Ils ont eu faim, là. Ils ramassent tout. Là, tout d'un coup, il y a une idée. La conscience parle, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit parle aussi, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'on fait là, c'est pas bien. On va retourner aux portes. Et là, le roi, il entend ça. Il a dit, non, ça, c'est un piège. C'est un piège, ça. Ça se peut pas. Il restait 5 chevals. Là, il a dit à ses serviteurs, allez voir. Voyez-vous, le roi, il n'entend plus Dieu. Il n'écoute plus le prophète. Voyez-vous dans quelle confusion qu'il se trouve? Parce qu'il a fermé la porte à Dieu. Fermons jamais la porte à Dieu. Dieu nous parle. Dieu a un plan. Il a le plan. Il a dit, ils ont tous caché en dehors, puis mais qu'on sorte, ils vont sauter sur nous autres. Mais les prophètes, les lépreux, ils ont sauvé la ville. Jouer l'image de Jonas. Jonas ne voulait pas y aller non plus dans la ville de Ninive. Mais ils se sont repentis. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il va dire au verset 9, les lépreux vont dire au verset 9, que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est ce qu'ils vont dire. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Donc, c'est là qu'ils vont y aller. Le roi ne croit pas. Finalement, ils décident d'y aller. Puis là, ils ont vu, mais ils ont vu le ciel ouvert. La prière ce matin, qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous qui savons que le ciel est ouvert, Jésus a frayé le chemin pour nous, pour qu'on puisse avoir notre nom écrit dans le livre de vie, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse échapper au jugement, qu'il puisse nous donner aussi l'abondance. Qu'est-ce qu'on fait, et je conclue avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec un ciel ouvert? Amen. Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés aux portes du temple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. N'ayons pas peur de donner ce que nous avons. Le royaume de Dieu, il y a beaucoup de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre salut? Qu'est-ce qu'on fait avec cette bonne nouvelle? Quel enseignement, n'est-ce pas? Ceux qui possèdent Jésus ont toujours un trésor à partager. Ceux qui ont la parole de Dieu ont toujours un trésor à partager. Il va dire dans l'Apocalypse, il va dire à l'Église, reviens et reprends tes premières œuvres. Je veux conclure ce message. Peut-être que c'est là qu'on est rendu. On a besoin de revenir puis de reprendre notre premier amour. On a besoin de nouveau du zèle de l'Éternel. On a besoin, non pas d'être comme le roi, de former notre cœur à ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous diriger. Dieu a dit, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Oh, mais tu vas dire, des fois, il y en a là, qui sont autour de nous autres. Qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 23? Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il y a une table dans le ciel. Puis il y a des adversaires. Donne ton pain. Mais tu vas dire, Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. Ni par ta force, ni par ta puissance. Mais il dit, par mon esprit, dit l'Éternel. Peut-être que tu vas me dire, ah oh, ouais, mais hey, tu vois les combats que j'ai dans ma vie. Vous savez, la chair, ça peut être la chair. Ça peut être. Mais si tu délaisses, si tu sais que Dieu, il ne veut pas ça dans ta vie, puis tu le sais, le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Tu le sais. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse remettre ça à Dieu. Dis, prends-le. Ça me fait mal, mais prends-le, Seigneur. Le moment où on va lui donner, Dieu va faire quelque chose. Il va te donner d'autres choses. Il va te donner un nouvel appétit. Tu penses que le combat, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort, le combat. Mais il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Je prends soin de vous. Vous savez, quand ce que Joseph a interprété le songe de les chansons du roi, il était en prison. Puis il va lui expliquer le songe qu'il a eu. Il dit, Dieu, tu vas être mis dans ta position que tu avais. Il y a des positions qu'on a perdues. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, j'appelle le repositionnement. La gloire de Dieu se lève. Le surnaturel de Dieu se lève. On n'a pas à l'endurcir nos cœurs. Il dit, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Donc, j'aimerais que vous relisiez cette semaine 2 Rois chapitre 6 et chapitre 7. et que tu demandes à Dieu qu'il te parle, et les paroles qui sont échappées d'ici ce matin, je veux croire que c'est comme dans les Actes des apôtres. Ça dit qu'il y avait une flamme de feu pour chaque tête. Il n'y a pas de tête qui a été exclue. J'espère que dans ce message ce matin, il y a quelque chose qui nous a parlé, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Au nom de Jésus, nous sommes devant toi. Nous savons que la route a été frayée par toi, Seigneur Jésus, et c'est toi, notre Sauveur. Sans toi, on est perdu, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a ouvert les portes du ciel, Seigneur, pour nous. Et tu nous as transportés dans ton royaume par la foi en toi. Ouvre nos yeux spirituels, qu'on voit ta gloire, Papa. Que ton règne vienne, Père, sur la terre comme qui est au ciel. Oui, il y a des temps difficiles. Il y a des temps d'apostasie. Il y a des temps de refroidissement. Il y a l'ennemi qui rôde comme un lion qui cherche à dévorer. Mais ce matin, Père, dans le nom de Jésus, je lève à toi mon corps, mon âme et mon esprit, te demandant, Père, viens régner dans ma vie. Est-ce que je peux entendre un dernier « Amen »? Amen.